vient d'être 17h, vous êtes à l'écoute des programmes du studio Kalangou. Je suis Rukhet Abdraman pour le journal en français. À la une de ce journal, après les affrontements de la semaine dernière à Dakar et dans certaines villes du Sénégal, le calme semble revenir. L'université Cheikh Anta Diop a été fermée. Comment les étudiants nigériens vivent-ils cette situation? Les détails dans un instant. L'insécurité cause des problèmes aux transporteurs nigériens sur certains corridors. Les acteurs du secteur des transports se sont retrouvés à Niamey ce matin pour échanger sur la situation. La partie magazine de ce soir sera consacrée à l'importance des informations météorologiques pour les producteurs ruraux. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé après la condamnation par la justice de l'opposant Ousmane Sonko la semaine dernière, Dakar, la capitale du Sénégal, et plusieurs villes du pays ont été secouées par de violents affrontements. Plusieurs infrastructures dont l'université Cheikh Anta Diop ont été fermées, selon Sambahima Ahmoudou, président de l'Amicale des étudiants nigériens et stagiaires au Sénégal. Le calme revient progressivement et les étudiants se portent bien. Il a été joint par Tarnan Foudé Ahmed.
Le campus de l'université Cheikh Anta Diop a été fermé et quelques écoles de la place également ont dû transférer ses cours en ligne au vu de la situation. Et ce que tout se passe bien, le campus juste a été fermé. Certains étudiants qui sont à l'université Cheikh Anta Diop ne sont pas sur le campus depuis le lundi dans toute la ville ou du moins dans presque tout le pays. Tout le monde va bien et nous avons mis en place un numéro vert dès maintenant pour des étudiants qui seront en situation de difficulté au vu de la situation. Nous accompagnons également certains étudiants qui ne sont pas de nationalité nigérienne à pouvoir regagner leur ville respective. Pour l'instant, nous constatons l'accalmie, tout se passe bien pour l'instant et nous espérons que cette accalmie va continuer, quoi.
Retour à Niamey où les acteurs nigériens de la chaîne des transports et de commerce se sont retrouvés ce matin pour parler des difficultés sur certains corridors à cause de l'insécurité. Pour la directrice générale du CNUT, le Conseil des chargeurs a relevé les efforts des autorités nationales pour alléger les souffrances des chargeurs. Kima Mustapha Mamadou, DG du CNUT, au micro de Fatih Malayaro.
Dans ce registre, on peut inscrire la visite de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, à Cotonou et à Lomé au mois de mars 2023, la réunion de la Grande Commission mixte de coopération entre le Ghana et le Niger au mois d'avril 2023, la réunion quadrilatérale entre les ministres des Transports et du Commerce du Burkina Faso, du Bénin, du Niger et du Togo pour la convergence du cadre légal des transports routiers, de l'intermédiation du transit et des échanges dans les quatre pays, ainsi que la rencontre entre les mêmes ministres sur l'exploitation des corridors Lomé-Ouaga-Niamey-Tonou-Niamey. Dans le même registre, on peut relever la dernière mission de prospection en Libye dans ce mois de juin 2023 avec pour objectif ultime l'utilisation du corridor libyen par nos chargeurs dans les prochains jours.
Autre aspect de ce journal, la saison de l'oignon va bientôt commencer dans la région d'Agadez. Déjà, certains agriculteurs estiment qu'avec le problème d'insécurité sur l'axe Niger-Burkina Faso, cela a réduit beaucoup la culture de l'oignon cette année. Mahmoud Al-Gafiat, président des agriculteurs de Kirozérine, lance un appel au gouvernement pour venir en aide aux maraîchers. Il est au micro d'Ahmed Fellan.
C'est maintenant que nous allons faire nos pépinières d'oignons, précisément entre le 15 et le 20 de ce mois. Actuellement, le prix de l'ail et des épices ont beaucoup baissé. Et la situation qui prévaut sur le corridor du Burkina a découragé beaucoup de producteurs. D'autres pensent même ne pas cultiver l'oignon cette année, puisque la voie a même été bloquée. Et aucun transporteur ne prendra le risque de le suivre. Les commerçants aussi ne peuvent pas prendre le risque que les bandits brûlent leurs oignons. Cette situation a beaucoup impacté la filière d'oignon cette année. Nous avons demandé aux autorités de nous solutionner ce phénomène qui a ruiné plusieurs producteurs du fait que l'ail n'a plus sa valeur. Les épices que nous produisons aussi ne valent rien sur les marchés. À ce jour, la mesure d'ail ne coûte que 250 francs CFA. Nous avons même sollicité l'appui des bailleurs de fonds pour nous faire des puits d'infiltration afin d'avoir assez d'eau pour nos cultures.
Les feux de brousse sont entre autres les causes de la dégradation de l'environnement. Dans le département de Ndjindjimi, chaque année, les feux de brousse ravagent plusieurs hectares de terre. C'est le cas l'année dernière des villages de Kawardibi, Djingandi et Gagam. Comment prévenir les feux de brousse? Lieutenant-colonel Amadou Oumarou, directeur départemental de l'environnement de Ndjindjimi, pour quelques conseils, il est au micro de Maina Abdoulaye.
Il y a trois façons de lutter contre les feux de brousse. Premièrement, il y a la sensibilisation sur les médias, les annonces par le crieur public ou les caravanes de sensibilisation qui consistent à sillonner les différents villages où il y a des éleveurs afin de les sensibiliser sur ce qui peut engendrer le feu de brousse, les conséquences et comment faire pour arrêter le feu. En dehors de tout cela, il y a la formation des brigadiers anti-feu dans les différents villages qui sont considérés comme des foyers zones à risque. On fait la sensibilisation sur comment il faut circonscrire le feu au cas où cela se produit. La troisième forme de lutte, construction des pare-feux, où on exécute des travaux qui consistent à faire des pistes en désherbant la paille et nettoyer complètement l'espace de telle sorte que si le feu de brousse se déclare, arrivé à l'endroit, le feu s'arrête.
Ils sont 30 responsables et présidents de différents centres de santé intégrés de Dakoro à subir une formation en financement basée sur le résultat. Cette formation permettra aux participants de rehausser les indicateurs selon Rabi ou Adamou, responsable du CSI Mayara. Il est au micro de Amadou Oumarou.
Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une formation appelée FBR, financement basé sur le résultat. Cette formation va nous aider à renforcer nos capacités dans le but de faire les activités ou de renforcer les activités que les CSI sont en train de mener dans le district center de Dakoro. C'est sous forme d'achat de nos propres données ou indicateurs, donc quand ils sont de qualité et en quantité aussi. Voilà en quelque sorte l'objet de cette rencontre.
Le résultat attendu?
Le résultat attendu à la fin de cette formation, il y a la mise en œuvre d'un projet qui est là, une approche FBR comme j'ai eu à le dire, donc qui va aider les CSI vraiment à mieux améliorer les indicateurs.
Propos recueillis par Adamou Oumarou. Ce matin a débuté à Niamey l'Assemblée générale de l'Association des délégués médicaux du Niger qui a pour thème « Rôle du délégué médical dans la chaîne médicale ». Ils sont 500 au total sur l'ensemble du territoire du Niger, mais méconnus du public nigérien. Sissé Abdul Wahab, président de l'association, explique leur rôle au micro d'Alamine Ouachar.
Pour certains, on est des vendeurs de médicaments, alors qu'il n'en est rien. Nous sommes des informateurs. Nous sommes le pont entre l'industrie pharmaceutique et les professionnels de la santé. Donc, toute information sur le médicament, c'est le délégué qui a la primauté et il vient le ventiler aux professionnels de la santé pour une meilleure prise en charge des patients. Nous sommes extrêmement importants dans la chaîne de prise en charge thérapeutique. C'est nous qui amenons des schémas de prise en charge. C'est nous qui formons les gens sur les médicaments. C'est énorme dans la chaîne de santé publique. Tout à l'heure interpellé la tutelle sur d'abord les autorisations de mise sur le marché. Vous savez, c'est ce qui fait la différence. Tout à l'heure, le professeur Touré en a parlé. Dans des pays à côté, il y a pratiquement toute une pléthore de médicaments. Chez nous, il n'y en a pas. Or, tant qu'un produit n'a pas d'autorisation, on ne peut pas le vendre sur le pays. Nous voudrons vraiment que les choses soient accélérées.
Hier, mercredi 7 juin, s'est tenue à Bilma la 4e session du Comité de pilotage du projet d'appui au développement économique du Kawar, PADK. Ce projet est financé à hauteur de 3 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement AFD et mis en œuvre par la HACP et l'OIM. Madame Sophie, chef de mission OIM Niger, qui parle des activités réalisées et des défis de la zone du Kawar. Elle est interrogée par Abari Abagana.
Les activités menées par l'OIM en appui à la HACP incluent notamment la mise en place d'infrastructures socio-culturelles et sportives pour renforcer les capacités locales permettant de mobiliser l'engagement citoyen et de prévenir les conflits. Celles-ci sont soit finalisées, mais à ce jour surtout en cours de finalisation. En plus, les activités de maraîchage, avicole et d'élevage des petits ruminants pour les jeunes et les femmes sont aussi en cours de mise en œuvre. et constituent elles aussi des opportunités économiques durables en faveur des bénéficiaires et des communautés. Permettez-moi de souligner que la zone d'intervention du PADEC pose des défis pour nous bien plus difficiles que d'entre d'autres zones de la région d'Agadez et même de l'ensemble du Niger, notamment par son enclavement géographique. Les incidents sécuritaires obligeant à requérir une escorte militaire pour traverser le désert, à la fois pour les personnes mais aussi pour les marchandises.
Ils sont nombreux les propriétaires terriens expropriés pour cause d'utilité publique pour la construction et l'exploitation de la cimenterie de Badagichiri de la région de Tawa. Après plusieurs mois d'inquiétude, les expropriés ont été dédommagés conformément à la loi. Suivez quelques-uns au micro de Bello Bisou.
On nous a donné de l'argent sur la base du premier accord. Le montant qui nous a été attribué n'a pas répondu à nos attentes. Après concertation, nous avons convenu de faire appel à un avocat. Il a été convenu avec l'avocat que si le procès est gagné, alors sur le montant que chacun recevra, tel montant sera remis à l'avocat. Nous avons accepté et chacun de nous est satisfait.
Les gens qui pensent que les membres du comité vont les dribbler, c'est eux qui viennent nous remercier. Tout celui qui reçoit son argent vient en personne nous dire merci. Les autres dont les passions n'ont pas été utilisées sont prêtes à céder leur terrain en cas de besoin.
Nous remercions Allah. La seule revendication qui reste en suspens relative au recrutement qui stipule que sur 100 travailleurs recrutés, 70% des expropriés seront recrutés car nous ne possédons plus de champs à cultiver. Cela permettra à chacun d'avoir un emploi.
Parlons sport à présent. L'équipe nationale de football du Niger, le MENA U23, a gagné hier soir à Niamey son deuxième match amical contre la sélection régionale de Niamey sur le score 3-1. Cette rencontre entre dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Les poulains de Zakariaou Ibrahim poursuivront leur préparation avec un ou deux matchs amicaux au Maroc avant la compétition finale. Et puis la partie magazine de cette édition, la direction de la météorologie nationale met à la disposition des populations des informations sur le temps qu'il fait et les prévisions saisonnières. Des informations qui peuvent servir de base d'orientation, de planification des activités, particulièrement en milieu rural. Quelle est la place de ces informations dans la vie socio-économique des agriculteurs, éleveurs et autres acteurs du monde rural? Madame Liman Aïssa Boubacar Diallo, responsable à la division changement climatique à la direction de la météorologie, explique au micro de Moussa Hassan.
La direction de la météorologie nationale élabore beaucoup de produits d'information à l'endroit des producteurs ruraux, des bulletins de prévision quotidienne, décadaires, les résultats de la prévision saisonnière ou bien des bulletins du cadre national sur les services climatiques. Si vraiment ces produits arrivent auprès de ces usagers, ça peut les rendre beaucoup plus résilients aux effets néfastes liés aux questions de variabilité et changement climatique. Dans les communautés où nous avons eu à placer des pluviomètres SPIA, un outil de mesure des hauteurs de pluie qui permet, une fois que la date moyenne de démarrage de saison est arrivée dans la zone, on dit à ces producteurs de semer. Pourtant, avant, ils creusaient le sol pour avoir une idée de l'humidité avant de semer. Par rapport au choix aussi des semences, en fonction du résultat des prévisions, le producteur pourra choisir ses variétés, des variétés améliorées à cycle court ou long. Par exemple, si un producteur décide d'aller mettre de l'engrais dans son champ demain et qu'il pleuve abondamment, ça va le susciter à aller mettre de l'engrais. Mais si la météo dit qu'il va venter beaucoup, il ne va pas partir parce qu'il sait que le produit va s'échapper dans l'air.
Donc ces informations peuvent impacter leur vie socio-économique.
Bien sûr. En tout cas, du point de vue agricole, ça permet vraiment d'avoir une très bonne production parce que l'information climatique de nos jours doit être considérée dans le paquet technologique du vulgarisateur agricole. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des semences et de l'engrais pour réussir ça.
C'est tout pour le journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.